9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et pour cette partie culture, Philippe Vandel, on accueille Christophe Barbier.
Mais oui, l'homme à l'écharpe rouge est avec nous. Je sais que ça ne le vexe pas que je l'appelle comme ça, vu qu'il la porte de son propre aveu pour qu'on le reconnaisse. Donc on vous reconnaît. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, ancien patron de l'Express, éditorialiste notamment sur BFM TV, mais vous avez réellement une double vie. Passionné de théâtre, vous montez sur scène depuis plus de 30 ans, d'abord en amateur, puis en pro. Et là, vous êtes actuellement sur la scène du Petit Montparnasse à Paris. Je vais le dire comme ça c'est fait, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi soir à 19h et le dimanche à 15h pour une pièce, une création de l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeannet, l'un de nous deux, il y a un sous-titre Mandelblum. Avant de raconter la pièce, le contexte.
Nous sommes en juin 44, le débarquement a eu lieu, donc on espère que la victoire va être là. Et il y a deux hommes qui sont en prison. Ils sont en prison depuis 1940, hein, d'abord arrêtés par Vichy, ensuite livrés aux Allemands. Ils sont juste à côté de Buchenwald, pas dans le camp, mais dans une résidence surveillée, et ils attendent. Et puis, l'assassinat à Paris du ministre de l'Information de Vichy, Philippe Henriot, rue de Solferino, par des résistants déguisés en miliciens. C'est un coup de tonnerre terrible. Obsèques nationales pour Henriot, mais surtout Vichy dit aux Allemands, renvoyez l'un des deux otages, on va le fusiller. Et pendant 24 heures, Blum et Mandel savent que l'un des deux va rentrer à Paris pour être sans doute exécuté. Ils ne savent pas lequel des deux. Et cette pièce raconte leur conversation pendant ces 24 heures.
Ça se passe où ?
Nous sommes dans cette résidence surveillée à côté de Buchenwald. Donc on est dans tout pas loin de Weimar, on est dans ce qui sera l'Allemagne de l'Est après. On est à côté d'un camp qui n'était pas un camp d'extermination, mais qui était un camp de concentration et de travail.
Mais ce n'est pas, un cachot, c'est une conversation mondaine, presque urbaine.
Oui, c'est une conversation à la fois urbaine, très politique, parce que ce sont deux fous de politique. Très conflictuel, parce qu'ils ne sont pas du même bord.
Ah oui, alors Léon Blum, ancien président du Conseil, fidèle de Jaurès. Mandel, ancien ministre de l'Intérieur, collaborateur de Clémenceau. Ils étaient ennemis avant de se retrouver...
Non, je ne dirais pas ennemis. Ils étaient adversaires. Vous savez, dans la Troisième République, on composait des gouvernements un peu dans tous les sens. On se croisait. Laval, Pierre Laval, a été socialiste au début de sa carrière. Mais Mandel a travaillé dans un gouvernement dirigé par Pierre Laval en 1935. Vous voyez, tout était un peu mêlé. Mais ils sont adversaires. Ils n'ont pas la même conception de la République. Ils n'ont pas la même conception de l'autorité. Mandel est pour l'intransigeance. Blum est beaucoup plus pour la recherche d'un compromis. Ce sont deux manières de parler de la gauche, de la droite, de la France très différentes.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce ? Pourquoi vous l'avez choisie ?
D'abord, c'est un contexte historique passionnant. Et puis, les figures politiques qui sont au cœur de cette pièce sont incroyables. Moi, j'ai la chance de jouer Mandel. Mandel est une figure un peu oubliée aujourd'hui. Or, Mandel, c'est grâce à lui que nous sommes là ce matin. Parce que Mandel a développé la TSF. C'est lui qui a permis à la radio de décoller en France. Avec son collaborateur Pierre Laffut, qui a inventé les dramatiques radiophoniques, dont la Fondation participe au spectacle, ces deux hommes ont posé les bases de la radio moderne, publique d'abord, et ensuite, ça a permis les radios périphériques et la FM. Mandel est au cœur de cette histoire-là. Et Mandel est une figure oubliée, parce qu'en 1940, il s'est trompé. Les Anglais viennent le chercher. Churchill lui envoie un émissaire. On vous veut à Londres. Vous allez incarner la France qui combat à Londres. Et il leur dit non, je ne veux pas aller en territoire étranger, il faut que je reste en territoire français, je vais aller en Algérie ou au Maroc. Et du coup, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir leur second choix, un certain général de Gaulle. Vous voyez à quoi ça tient le destin ?
Le théâtre, pour vous, ce n'est pas une passion récente. Vous avez fondé en 91 la troupe Archicube. C'est quoi cette troupe, d'un mot ?
C'est la troupe des anciens élèves de l'école normale supérieure. On faisait du théâtre comme élève quand on était à Rue d'Ulm, à Normale Sup. Et puis quand on a pris un coup de vieux, on a créé ce théâtre des anciens élèves. Et depuis 30 ans, on fait du théâtre ensemble.
Vous pourriez vous consacrer un jour uniquement au théâtre ?
Oui, je pourrais, mais ça me déchirerait tellement d'abandonner le journalisme, l'édito, le commentaire de la vie politique. Honnêtement, la plus belle pièce de théâtre qu'on a vue depuis 40 ans dans notre pays, c'est la vie politique quand même. Des coups de théâtre comme le 21 avril 2002 ou l'élection de Macron, il n'y a pas un auteur qui a su les imaginer.
Macron, ancien comédien de théâtre. Je vous pose la question parce que la rubrique Check News de Libé cet été, le 2 juillet, a fait un long papier sur vous. Christophe Barbier est-il journaliste ? Comment vous avez pris cet article ?
J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a été très contestés, nous les éditorialistes, au moment des Gilets jaunes.
Ouais.
Et les gens nous disaient, vous n'êtes pas des journalistes, vous vous prenez parti. Mais oui, mais le journalisme, ça commence par le reportage, dire ce qu'on voit.
Ouais.
Et évidemment, les journalistes les plus importants, c'est les grands reporters sur les territoires de guerre, c'est les investigateurs. Mais au bout du journalisme, il y a aussi, une fois que les faits sont établis, que le commentaire et l'analyse ont été déroulés, il y a un petit plus qu'il faut ajouter. Ouais. C'est la prise de parti, c'est l'éditorialiste qui va obliger les gens non pas à obéir, mais à se construire leur propre opinion titillée par notre opinion à nous. notre opinion qui peut être parfois tranchée, voire provocatrice.
Puisqu'on en parlait maintenant, le 7 janvier, il y a eu une première dans l'histoire de BFM TV. Les équipes de reportage ont refusé de tourner sur les Gilets jaunes et autour des Gilets jaunes à cause des agressions qu'ils subissaient sur le terrain. Et le problème qui avait été relevé par les reporters de BFM TV, c'était les éditorialistes. Parce qu'ils donnaient l'impression de parler au nom de la chaîne. C'est qu'ils disaient, on ne veut pas être filmé par vous parce qu'on a entendu Barbier.
Exactement.
Comment ça, vous l'avez vécu ça?
Ça, c'est un
parce
vrai problème.
Vous n'étiez pas pro-Gilets jaunes, c'est le moins qu'on puisse
exactement.
Dire.
Exactement. C'est un vrai cas de conscience parce qu'on n'a pas le droit, nous, éditorialistes, de mettre en péril les gens qui sont sur le terrain pour affirmer notre conviction. Mais on n'a pas le droit d'étouffer notre conviction, de s'auto-censurer par cette crainte-là. Donc c'était une équation très, très difficile à résoudre. Et bien, il faut peser encore plus les mots, toujours ajouter à la conviction affirmée la pédagogie déployée, pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous reconnaissent quand même que vous avez un raisonnement, que ce n'est pas une agression, et que pour vous contrer, ils soient obligés eux-mêmes d'argumenter et de ne pas agresser. Or, on a eu, parmi les Gilets jaunes, pas tous, mais on a eu quelques-uns, dont certains « chefs », entre guillemets, qui voulaient rester dans le domaine de l'agression, parce que c'était quand même plus confortable pour eux.
On va parler de théâtre tout à l'heure, Christophe Barbier, mais d'un mot, il y a un nouveau patron à BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. Comment ça se passe? Vous êtes borduré, vous êtes aussi libre qu'avant, comment ça se passe pour vous?
On est aussi libre qu'avant, il n'y a absolument pas de contrôle éditorial. Marc-Olivier apporte déjà sur la grille les petits changements qui veulent justement rapprocher en permanence de la vie quotidienne du téléspectateur, de l'intérêt des téléspectateurs, notre actualité. Et c'est vrai qu'on est sorti d'une année très, très agressive, très violente, très péremptoire dans la prise de position des uns et des autres.
Il faut peut-être passer... Vous mettez
dedans. Oui, moi-même. Il faut peut-être passer à une année où on va poser les choses pour mieux les expliquer. Être plus professeur et un peu moins procureur. Ça, vous voyez, c'est Blum contre Mandel.
J'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron.
Bah, y a de ça aussi. Si le politique a trouvé une forme de réponse avec le grand débat, avec la concertation, ça veut dire aussi que la société attendait plus d'horizontalité. On se réunit, on dit ce qu'on a sur le cœur, et si on peut, on le dit au président de la République, il écoute et il répond. Et bah, il faut aussi que le reste de la société, dans les entreprises comme dans les médias, on prenne compte aussi à cela.
Mais ici aussi, le grand débat continue.
Europe 1. Il est sur scène au Petit Montparnasse pour la pièce L'un de nous deux. C'est Christophe Barbier qui est notre invité. Et il sera gentiment sur le gris dans un instant parce qu'Hélène Manarino a enquêté. On va tout savoir de vous, Christophe Barbier, grâce au portrait inattendu. Et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Christophe Barbier est notre invité, Philippe Vandel. Et c'est l'heure de son portrait inattendu.
Par Hélène Manarino, que je suis ravi de vous retrouver. Et vous aussi, j'imagine, derrière votre poste. Non, je ne parlais pas à vous, je parlais aux autres. Auditrice, Hélène, et sa modestie.
Elle est quand même ravie de me retrouver.
Hélène, vous avez la parole, vous avez le micro, allez-y.
C'était sympa, j'étais contente de vous
retrouver. J'ai bien compris. Mais je pensais que vous étiez contente de vous retrouver vous-même.
Non, ça va quand même. Et oui, je suis là pour tout dévoiler, tout ce que l'on ne sait pas sur notre invité. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour.
Enfin, je devrais plutôt dire bonjour chargeur de CD. C'est comme ça que l'on vous surnomme, drôle de surnom. Et
c'est
pourtant, il veut dire beaucoup de choses. Oui, Christophe Barbier, on peut vous brancher sur absolument tous les sujets, vous répondez sur tout. Il est impossible de vous piéger. Est-ce que ça va être le cas ce matin? Je pense que là, vous ne savez pas encore répondre. Alors Christophe Barbier, vous avez eu du mal à franchir le cap des 50 ans. Vous ne vous sentez plus tout à fait le même homme. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes resté un petit peu en enfance. Vous avez une véritable passion pour Disneyland Paris. Vous connaissez le parc par cœur, le fonctionnement de chacune des attractions. Vous êtes capable de faire 3 fois la queue pour Indiana Jones.
Non.
Et vous... Je tiens à dire à ce micro que la fermeture définitive du Rock'n'Roller Coaster Aerosmith est vraiment me déchire le cœur.
Et vous collectionnez même les chopes de bière Disneyland Paris.
Bon, c'est très kitsch, j'avoue. J'en ai pas non plus des centaines, mais j'en ai quelques-unes.
J'ai juste une dans la maison.
J'imagine. Vous rapportez quoi, des peluches de...
Je mets rien, vous rapportez rien.
Mais il y a un dessin animé qui sort du lot quand même. La Belle au bois dormant, évidemment, avec la Belle Aurore, prénom que vous avez donc donné à votre fille. Votre âme d'enfant se traduit aussi par votre collection de petites voitures et par vos goûts culinaires. Quand vous êtes seul chez vous, vous avez une habitude, manger de la ratatouille en boîte. Il est impossible de vous faire changer de plat. Et vous craquez aussi pour une tablette de chocolat à la poire.
Ah oui, chocolat à la poire, on ne va pas donner la marque, mais ça c'est top. Quant à la ratatouille, c'est quand même la seule chose facile à manger chaude ou froide. Au-delà, je n'arrive pas.
L'efficacité, donc.
Déjà, cuire un œuf, c'est trop difficile pour moi.
L'adulte à l'âme, à l'âme d'enfant, mais Christophe Barbier, petit, ça donnait quoi? Celui que l'on surnommait Titi, et vous étiez plutôt du genre à enchaîner les 400 coups. Comme le jour où vous êtes en vacances chez votre tante, vous avez 14 ans, vous décidez de jouer au ballon à l'intérieur de l'appartement que votre tante louait. Je ne vous félicite pas. Et vous avez shooté dans la sauce vinaigrette qui s'est renversée partout dans le salon. Une sauce bien grasse, bien huileuse. Votre tante ne s'est pas énervée, elle s'est contentée d'un « Christophe, tu sors ». Un enfant casse-cou, vous aviez l'habitude de partir en vacances au ski et à l'âge de 10 ans, vous avez fait une chute sur la tête.
Ah voilà.
Et la première chose que vous avez dite en vous relevant, c'est bon, je ne suis pas amnésique, pour rassurer tout le monde, sauf que vous ne vous souveniez plus du tout de la date du jour. Un enfant farceur, quand vous alliez vous promener en forêt, alors il vous arrivait de vous casser le poignet en courant, mais surtout vous preniez de la mousse qui se trouve sur les arbres pour vous en faire de fausses moustaches. Le but, amuser vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs avec qui vous aviez un jeu bien précis chez votre tante, cachaient des petits mots sous une cuve pour aller les rechercher des années après.
C'est vrai ?
Ah oui, oui, il faudrait que j'y retourne. Je pense que tout a été rasé et reconstruit. Mais c'est aussi les endroits où on cherchait des œufs. J'adorais, c'était une ferme et j'adorais chasser les œufs. Je passais des heures à traquer les poules qui pondaient un peu dans tous les coins de la ferme. Et c'est des souvenirs merveilleux. J'ai appris à traire, hein, je sais traire les vaches. Moi.
C'est vrai ?
Ah oui, ça peut servir.
Christophe Barbier, vos deux activités, théâtre et politique, finalement c'est assez similaire. Entre-temps, il y a joué aux échecs, l'escrime, le rugby. Mais en tout cas, vous aimez allier les deux. Le théâtre et la politique, vous allez comprendre. Vous ne prenez jamais de notes avec vous lorsque vous êtes sur le plateau de BFM TV. Les feuilles que l'on peut voir à l'écran sont en réalité des manuscrits de pièces de théâtre ou des notes sur vos rôles.
C'est vrai ?
Il m'arrive d'emporter mon texte sur les plateaux pour une bonne raison. C'est que si vous arrivez à la fois à écouter ce qui se dit sur le plateau et à vous réciter votre texte dans votre tête, c'est que vous le savez bien.
C'est un beau test.
C'est impressionnant.
De concentration.
Quand vous êtes en répétition, il vous suffit juste de dire « j'arrive dans une minute » et une minute plus tard, montre en main, votre papier pour le lendemain est écrit. Vous dormez 3 heures par nuit, vous êtes capable d'écrire une pièce de 2 heures en seulement 3 mois. Mais quand on aime, on ne compte pas. Pour le théâtre, il n'y a aucune limite. Vous y allez presque tous les soirs et votre maison est envahie d'objets de théâtre. Le bâton pour les 3 coups, les costumes, les meubles de décor au milieu de votre collection d'épisodes de la série Columbo, dont vous êtes fan, évidemment. Vous êtes capable.
J'ai eu des VHS, maintenant je suis passé au CD pour Columbo.
Vous êtes capable de transporter les décors de théâtre vous-même pour aller jouer directement chez les gens, dans leur salon.
Ah, j'adore ça. Être à 50 cm des spectateurs, jouer dans les meubles des gens et se les approprier comme si on était chez soi. Tous les spectacles ne s'y prêtent pas, tous les textes ne s'y prêtent pas. Mais le théâtre de salon, c'est vraiment un exercice très agréable.
Et à l'âge de 17 ans, alors que vous êtes en plein examen du bac S, vous trouvez le moyen de mettre en scène Cyrano de Bergerac avec votre ancienne professeure de 3e, Madame Robillard.
Oui.
Bref, le théâtre, c'est n'importe où, à Venise, votre lieu de prédilection, ou encore le lac Jauvet, l'un des plus beaux endroits du monde. Mais le théâtre, pour vous, c'est aussi n'importe quand. Pas étonnant qu'étudiant, vous dormiez dans les rues d'Avignon pour ne rien louper. Alors vous pouvez jouer partout.
Attendez. Vous avez dormi dans la rue Avignon avec les punks à chiens ?
Dans la rue, non, pas tout à fait dans la rue, mais on était allé, on s'était retrouvé dans une ferme.
C'est dans les rues d'Avignon. Pratiquement dans la rue, c'est quand même dans la rue.
J'avais l'image. Ouais, Barbier, vas-y.
Vous pouvez jouer partout sauf sur la plage, car vous détestez le sable. Mais surtout, Christophe Barbier, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable, par exemple, sans prévenir personne, quand vous êtes sur scène, de sauter dans le public, à plus d'un mètre de hauteur, au milieu de cette foule, dans un seul but, aller voir votre compagne qui se trouvait dans la salle pour lui donner un beau baiser de cinéma de plus de 1 minute et devant tout le monde, ce qui est très romantique. Alors, Christophe Barbier, vous pouvez le dire, votre rêve encore actuel, c'est de diriger un théâtre. Et comme vous répétez si souvent, le théâtre, ce n'est pas mon métier, mais c'est ma vie. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de 400 coups, mais bien de 3.
Les 3 coups. Vous savez pourquoi on frappe les 3 coups ? Parce qu'il fallait prévenir dans le temps les techniciens qui étaient sous la scène, les techniciens qui étaient dans les coulisses et les techniciens qui étaient en hauteur dans les cintres. On frappait 3 coups. Si à l'un de ces 3 coups, quelqu'un répondait « stop », on ne levait pas le rideau. Et on a dit aussi que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et aussi Sarah Bernard qui arrivait,
oui,
avec sa jambe de bois.
Exactement,
c'est ce que disait Sacha Guitry. Elle arrive avec nous.